Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre émission hebdomadaire sur l'actualité des territoires du Nord-Ouest et du Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Une série de témoignages portant sur les effets des pénuries de logements chez les peuples autochtones de partout au pays sont livrés ce mois-ci au Parlement canadien. Les députés fédéraux, membres du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, ont convié un groupe de panélistes dans le cadre d'une série de rencontres présidées par le député libéral Marc Garneau. La ministre responsable de la Société d'habitation des TNO, Polly China, était virtuellement présente ce mardi 22 mars.
As a territory, our reliance on public housing is greater than any other Canadian jurisdiction other than Nunavut.
Comme le souligne la ministre, aucune autre juridiction canadienne à part le Nunavut ne dépend autant des logements sociaux que les territoires du Nord-Ouest. Plus précisément, le territoire compte 2600 logements sociaux répartis à travers les 33 collectivités, un effectif qui serait demeuré stable au cours des 50 dernières années, selon la ministre, et ce, malgré une demande croissante.
Are looking at the operation and maintenance of these units, the price to operate them aren't drastically increasing. As a minister responsible for the Northwest Territories Housing Corporation, one of the questions I've asked is, how much money are we going to continuously invest into these 50-year-old assets?
Les coûts d'entretien de ces vieux logements augmentent de manière considérable, a souligné Mme China. En tant que ministre, l'une des questions que je pose, c'est encore combien d'argent devrons-nous consacrer à ces habitations qui ont une cinquantaine d'années? Questionnée par les députés des partis conservateurs, néo-démocrates, bloquistes et libérales, incluant le député des territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod,
I would like to see the direct funding to the Northwest Territories.
Polly China a insisté sur l'importance pour les territoires du Nord-Ouest de bénéficier d'un financement direct et flexible de la part du gouvernement fédéral, de l'argent qui permettrait aux groupes autochtones de s'attaquer aux enjeux spécifiques à leur collectivité. Entre autres obstacles à surmonter, la ministre souligne la complexité et la lourdeur des processus de demande de financement au gouvernement fédéral.
You know, we've got Indigenous organizations and representatives that are trying to access this funding, and they don't have the capacity to be submitting these proposals going forward and the amount of information that is required.
Comme l'indique la ministre Polly China, des organisations et représentants autochtones au sein des collectivités tentent d'accéder au financement du gouvernement fédéral pour construire des logements, mais n'ont tout simplement pas les ressources pour faire les demandes de financement qui exigent de collecter une grande quantité de données par rapport au type d'habitation à construire. Comme l'a souligné Mme China, en plus de dépendre grandement des logements sociaux, le territoire doit, de par son éloignement, payer le plein prix pour les matériaux de construction qui doivent bien souvent être livrés par avion.
Right now, the material flying into the communities is pretty much quadrupled, I want to say.
Il en coûte, selon elle, le quadruple du prix normalement payé, par exemple, dans les collectivités du Sud. Et comme l'a rappelé la ministre, les enjeux liés à la pénurie de logements dans les collectivités sont intrinsèquement liés à d'autres enjeux sociaux, tels que les dépendances et la violence familiale.
I do have to confess, I sit here as a conservative who is a proponent for limited government and responsible spending.
Certains députés membres du comité ont fait état de leur consternation face aux témoignages qui leur ont été livrés. Ce fut notamment le cas pour la députée conservatrice Shannon Stubbs.
I do have to confess, I sit here as a conservative who is a proponent for limited government and responsible spending, but am shocked and disturbed by what is clearly a colossal humanitarian failure.
La députée qui a elle-même tenu à avouer qu'elle est conservatrice et partisane d'une intervention limitée de l'État et de dépenses responsables s'est dite consternée et troublée par ce qui lui apparaît être une crise humanitaire colossale dans le Nord canadien. Cette déclaration suivait le témoignage de Mme China, mais également du président de la Société d'habitation du Nunavut, Erin Devereaux, qui a dressé un sombre portrait de la situation vécue dans les collectivités inuites.
The situation is not getting better, it's getting worse.
Comme l'a rapporté M. Devereaux, malgré les investissements des dernières années, tant sur le plan territorial que fédéral, La situation en matière de logement au Nunavut ne s'améliore pas. Elle ne fait qu'empirer. Environ 70 % des logements disponibles au Nunavut sont des logements sociaux. Et sur environ 39 000 habitants, plus de 3 000 familles seraient sur la liste d'attente de la société d'habitation. Selon M. Devrault, environ 35 % des habitations du Nunavut sont surpeuplées, une proportion qui s'accroît à environ 66 % dans les ménages inuits. Il ne serait pas rare, selon M. Devrault, de voir certains logements abriter entre 16 et 20 personnes. Un facteur aggravant dans des contextes d'éclosion de tuberculose dans certaines collectivités et de COVID-19.
There's not a single person untouched by this crisis.
Personne au Nunavut, selon Aaron Devrault, n'est épargné par cette crise.
We estimate the real need for additional new housing is closer to 5,000 units.
Selon le gouvernement du Nunavut, le besoin réel de nouvelles habitations sur le territoire est estimé à environ 5 000 nouvelles unités d'habitation. À l'heure actuelle, la société d'habitation du Nunavut entretient environ 5 800 unités de logements sociaux et construit environ 75 à 100 nouvelles unités par année.
This comes nowhere near meeting the demand.
Cela ne suffit absolument pas à répondre à la demande, selon le président.
You know, it's like one step ahead and two steps back every single year.
Pour répondre à cette demande, le gouvernement du Nunavut estime devoir bâtir entre 250 et 300 maisons par année dans les 5 à 8 prochaines années. Un objectif qui est estimé à environ 3 milliards de dollars. Et selon Aaron Devrault, ce montant risque de s'accroître avec l'augmentation annuelle des coûts de construction. Le GIEC, soit le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié le 28 février 2022 le très attendu second volet de son sixième rapport sur les changements climatiques. Le groupe d'experts, qui provient de 195 États membres de l'ONU, dresse un tableau consternant de l'évolution des risques associés au changement climatique, et ce, sur tous les continents. Ma collègue Nelly Guidici est au bout du fil pour un compte-rendu du rapport. Bonjour Nelly.
Bonjour Thomas.
D'abord, Nelly, quelles sont les conclusions de ce rapport, en bref?
Alors, en bref, le rapport indique, comme vous l'avez dit, Thomas, que la tendance de la hausse des températures est continue. Et ce rapport dresse aussi 127 risques qui ont été identifiés partout dans le monde. Donc, ces risques vont de la hausse de la mortalité due à la chaleur pour les pays du continent africain, à la disparition des récifs coralliens en Australie, la qualité et la disponibilité de l'eau dans la mer Méditerranée ou encore des dommages sur les infrastructures urbaines en Asie. Cependant, le rapport indique qu'il pourrait y avoir des répercussions sur le tourisme à l'échelle internationale. Donc, c'est très consternant, comme vous pouviez le dire.
Oui, bon, c'est un sombre tableau, comme on pouvait s'y attendre. Et pour ce qui est de l'Arctique, Nelly, quels risques ont été répertoriés, par exemple, pour les territoires canadiens?
Alors, les risques en Arctique concernent surtout la biodiversité marine, et ça concerne l'Arctique, mais aussi l'Antarctique. Il y a aussi des impacts sur les écosystèmes arctiques qui sont dus à la fonte du pergélisol et qui sont évoqués dans ce rapport. Donc, en gros, plus la température à la surface du sol augmente et plus ces risques d'impact sur la biodiversité sont grands. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la perte des ressources alimentaires pour les collectivités du Nord qui dépendent de cette biodiversité marine, par exemple. Et ça augmenterait finalement l'insécurité alimentaire qui est déjà très présente dans l'Arctique canadien.
Donc, des choses qui concernent évidemment beaucoup plus les collectivités des territoires du Nord-Ouest ou du Yukon, là, où vous êtes en ce moment, Nelly.
Oui.
Est-ce que des solutions sont mises de l'avant dans ce rapport?
Alors, le rapport n'apporte pas vraiment de solutions précises, mais il souligne le rôle majeur de l'adaptation à l'échelle humaine et de la résilience. Il reconnaît aussi les différentes formes de connaissances, par exemple comme le savoir autochtone, les connaissances locales, le savoir scientifique, pour comprendre et mettre en place des mesures pour réduire les risques liés à l'augmentation des températures et au changement climatique. Alors, par exemple, il y a des initiatives déjà en place à l'échelle locale, en Arctique. Par exemple, dans le territoire du Yukon, dans le village de Old Crow, qui est dans le nord du territoire où se trouve la Première Nation Wuntut Gwechin, plus de 2000 panneaux solaires ont été installés en juillet 2021 afin de diminuer la dépendance de la collectivité aux générateurs au diesel qui étaient déjà présents dans le village.
Et pour plus de détails, on vous invite à lire l'article de la journaliste Karine Lavoie dans l'Aquilon de cette semaine. Nelly Guidici, merci beaucoup.
Merci Thomas.
À compter de ce vendredi 25 mars, la vente de produits de vapotage aromatisés est interdite au territoire du Nord-Ouest. Les détaillants sont désormais limités à la vente de produits de vapotage non aromatisés et à l'arôme de tabac. Le nouveau règlement est inclus à la loi sur le tabac et les produits de vapotage des TNO. Selon ce qu'on lit dans un communiqué de presse émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 24 mars, ces modifications visent en particulier à protéger les enfants et les jeunes contre les produits de vapotage aromatisés. On souligne que le vapotage est devenu un risque important pour la santé et qu'il peut entraîner des lésions pulmonaires graves. Les résidents et organisations des TNO ont été invités l'an dernier à faire part de leurs commentaires sur le règlement proposé. Selon le ministère, parmi les 47 soumissions reçues, plus de 60 % étaient en faveur de l'interdiction de la vente de produits de vapotage aromatisés. Le gouvernement fédéral s'affaire présentement à l'examen de la loi sur le tabac et les produits de vapotage. La population canadienne est invitée à consulter un document de travail de Santé Canada et à faire parvenir ses commentaires par courriel d'ici le 26 avril 2022. Santé Canada a publié en juin 2021 un projet de règlement qui interdirait toutes les saveurs de cigarettes électroniques au Canada, sauf celles de tabac, de menthe et de menthol. Le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Le consul général de France à Vancouver s'est inscrit ce mois-ci comme l'allié de tous les résidents de l'Ouest canadien qui, peu importe leur nationalité, partagent la langue française. J'en ai discuté avec lui cette semaine.
Ce qui est important, je pense, c'est de montrer qu'il n'y a pas que la francophonie et pas que l'affaire de la France, c'est l'affaire de tous les francophones et évidemment le Canada est un des pays fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment de soutenir l'action de cet écosystème francophone que je trouve est dynamique et des réseaux. Mon objectif, c'est de pouvoir m'associer, de pouvoir accompagner certaines de ces initiatives.
On parle de l'Ouest canadien. Bien évidemment, vous êtes établi à Vancouver. L'Ouest canadien est un concept assez large. Qu'est-ce qui, selon ce que vous avez pu observer, selon ce qu'on vous a rapporté, là, qu'est-ce qui définirait la francophonie nordique? Et là, on parle par exemple du Yukon et des territoires du Nord-Ouest, aux yeux du consul général de France.
Une question difficile pour quelqu'un qui est encore récent dans ses fonctions, puisque moi je suis arrivé le 1er septembre. Moi, ce que je constate, c'est que grâce à vous, et notamment à l'Aquilon, il y a quand même une presse et des médias francophones, il y a des associations, et donc tout ça, c'est des réseaux qui permettent de porter le soutien à la francophonie. Nous, le message qu'on porte, c'est aussi la défense et la promotion du plurilinguisme, puisque le fait de parler plus d'une langue, c'est une ressource à la fois culturelle, économique, et c'est un enrichissement personnel. Donc la francophonie, c'est aussi le plurilinguisme, et de ce point de vue-là, les territoires du Nord-Ouest sont des exemples ou des illustrations concrètes de la richesse de ce qu'est le plurilinguisme.
Et je m'adresse aux Français, finalement, représentants en quelque sorte de la France dans l'Ouest canadien. Comment, c'est une question extrêmement large, c'est l'occasion de la poser. Comment est-ce que la France perçoit la francophonie canadienne en 2022?
Alors, c'est une question qui est assez vaste et ça serait aussi utile d'associer plus que le seul consul général de France à Vancouver. Moi, ce que je ressens, c'est une vraie identité francophone canadienne, dynamique, qui est alimenté aussi par l'immigration, pas seulement de France, mais aussi d'autres pays francophones, d'Afrique ou du Maghreb. Oui. Ça, je trouve que ça, bah, ça contribue à au dynamisme de la francophonie, à enrichir aussi notre langue commune, parce que bah, c'est la même chose en France, avec toute cette immigration d'Afrique ou de subsaharienne ou du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, qui renouvelle, change aussi la façon dont on pratique notre langue. Et ça, je trouve que c'est aussi une richesse. Voilà, bah, mes impressions, c'est celle d'un pays, le Canada, qui est très engagé dans la francophonie institutionnelle, à l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi dans des médias francophones comme TV5. Je pense à tout cet aspect de coopération scientifique et de recherche, où je sais qu'il y a des projets qui sont menés avec des chercheurs français et des chercheurs canadiens sur ces enjeux liés à l'Arctique, qui est un espace immense, très riche en termes de biodiversité et aussi confronté au défi du changement climatique. Nous avons notamment une institution qui s'appelle l'IFREMER, qui est un très grand organisme de recherche qui s'occupe de l'étude des océans un peu partout dans le monde, et qui a tout récemment signé un partenariat avec l'université Laval, qui gère un programme scientifique de brise-glace de recherche. Et donc, grâce à cet accord, qui s'appuie sur des échanges en français entre chercheurs français et canadiens, des programmes de recherche vont pouvoir se déployer, des campagnes de recherche dans cette zone arctique. Voilà une illustration aussi concrète des bénéfices.
Nicolas Beaudoin, consul général de France à Vancouver, avec qui je discutais, hein, je le rappelle, dans le cadre du mois des rendez-vous de la francophonie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli.
Le trio franco-ontarien Les Chiclets sera à Hay River le 29 mars, dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. Le groupe musical présentera sa dernière production, qui est baptisée « Sérieux Bravo ». Mon collègue Thomas Chabot a eu la chance de discuter avec Nathalie Nadon, Julie Kim et Stéphanie Visconti en remplacement de Geneviève Cholette pour la tournée, juste avant leur spectacle à Plamondon, en Alberta. C'est une entrevue très colorée. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Les Chiclets, c'est l'humour musical rétro engagé, grand public, accessible, franco-ontarien, avec la danse, tchiboulioui, ping! C'est ça, les Chiclets, en fait. On est un trio vocal, oui. Oui, on a été, dès nos débuts, très inspirés par le son des Andrew Sisters, là, les trois harmonies, les trois voix en harmonie tout le temps. Mais je te dirais qu'au fil des ans, en écrivant notre propre matériel, parce qu'on faisait des covers au début, des standards américains, jazz, mais on voulait, c'est important pour nous aussi d'écrire nos propres chansons, tu sais. Puis je te dirais que de fil en aiguille, on s'est aventuré vers un propos plus engagé, plus féministe, plus drôle, plus cynique, plus sarcastique, parce qu'on est un peu comme ça aussi dans la vie. Et donc, le spectacle, la troisième production des Chiclets en 12 ans, le Sérieux Bravo, je te dirais qu'on est vraiment là. Les thèmes sont plus universels, c'est vu vraiment sous une lentille féminine. C'est sûr, on est trois filles, puis les thèmes qu'on va aborder vont être teintés, évidemment, de notre expérience féminine. J'ai pas nécessairement tout le temps le goût de dire féministe, mais reste que, ben, on est trois filles, trois grandes voix, trois grandes... grandes énergies, personnalité, puis c'est sûr qu'à un moment donné, quand on veut se tenir debout puis arriver au bout de nos rêves, ben il faut bouger les choses un peu, puis ouais, le féminisme et la féminité rentrent en ligne de compte.
Et c'est le thème de ce nouvel album, comme vous venez de dire, le féminisme. Et vous l'avez mentionné, Andrew Sisters, ce trio qui est quand même très connu des années 40, mais depuis, là si je ne me trompe pas, ça fait plus de 10 ans que vous êtes vous êtes formé en tant que groupe. Quelles autres inspirations vous avez piochées dans vos tournées pan-canadiennes et dans vos rencontres que vous avez faites?
Ben, je dirais qu'on est parti vraiment de nous, en fait. Les trois filles, on est comme déjà assez colorées dans la vie. Donc, quand on décide de thèmes qu'on veut aborder, on part vraiment beaucoup de nos propres bébites, en fait. Mais pour le troisième spectacle, on voulait, tu l'as un petit peu dit en début d'entrevue, avant, on était vraiment une comédie musicale. Tu sais, un début, un milieu, puis une fin. On se parlait entre nous, on s'adressait pas au public parce qu'on était une comédie musicale, tu sais. Mm-hmm. Tandis que maintenant, on a vraiment plus voulu travailler un peu style stand-up comique. Tu sais, moi, j'ai un petit monologue à un moment donné, Julie Kim a un petit monologue. On brise le quatrième mur, on parle au public. À un moment donné, je demande au public s'ils sont des épais. En tout cas, là, ça a l'air méchant, mais dans le contexte, ils sont super contents de me dire que non, ils ne sont pas des épais, parce que nous autres, on est en train de se faire blaster sur scène. Chier, ouais. Puis ce qui est le fun aussi, puis...
Tu l'as vu en toi, le spécial de Bo Burnham?
Oui, oh, j'adore Bo. Bon, Bo Burnham, c'est un humoriste américain, c'est ça, hein? Très pertinent auprès des jeunes. Ici, Stéphanie, les gens ne la voient pas là, à la radio, mais Stéphanie, c'est notre... Je l'appelle la petite. La petite, parce que c'est elle qui a pris la place de Geneviève pour un petit bout de temps, puis elle est d'une autre génération. Mais Bo Burnham, en fait, allez voir sur Netflix, là, il y a un spécial. Puis lui, il travaille beaucoup avec des tracks, des voix, des bandes sonores qui lui répondent. Fait que nous, ça nous a inspiré de faire ça. Puis, bon, on n'est pas Bo Burnham, là, c'est sûr, mais on a plein de personnages qui ont fait leur apparition dans le spectacle des Chiclettes. Puis moi, ce que ça me permet comme autrice, c'est de faire dire des choses à d'autres mondes. Puis c'est de faire dire des fois des choses un petit peu tout croche à ces personnages-là que les Chiclettes diraient jamais, mais auxquels nous, Chiclette peut réagir, tu sais. Fait que c'est très drôle. À un moment donné, les gens sont laissés tout seuls dans la salle. On n'est même pas sur scène. Puis il y a un enregistrement qui joue. Puis t'entends les gens faire « Ah! 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 » Mais ouais, bon! Tu sais, vraiment, les gens réagissent parce que le gars qui parle « Eh, boy! » T'es un peu chien, dans le fond, là.
T'sais. Vous jouez avec le public pendant votre spectacle?
Oui, absolument. Mais là, je peux pas tout te dévoiler parce qu'on veut garder l'effet surprise, là. Mais on rit beaucoup. Disons que la Capus Casing... en tout cas, je peux pas vous le dire, mais on perd un petit peu le contrôle des fois là, quand le public s'implique. Mais c'est bien, le fun.
C'était le trio musical Les Chiclettes qui seront en spectacle à Hare River le 29 mars dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine, ce sera la toute dernière émission Territoire d'Info. Je vous ferai mes adieux la semaine prochaine. N'ayez crainte, vous m'entendrez toujours sur les ondes de Radio Taïga. Surtout, vous me lirez encore davantage dans le journal L'Aquilon. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'initiative du journalisme local pour Média Ténois. Passez une excellente fin de semaine.
Territoire d'info. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.